Europe Midi,
Romain Desarbres.
On va parler de la réforme du chômage juste après le flash de midi et demi. Mais tout d'abord, évidemment, on revient sur ce qui s'est passé vendredi dernier. L'homme de 31 ans, soupçonné d'avoir tué une collégienne de 14 ans dans le Lot-et-Garonne, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur mineur, est placé en détention provisoire. Tristesse immense, on était à Tonneins il y a quelques instants. Et là, on est en direct avec Marjorie Sueur. Bonjour Marjorie. Bonjour. Sueur, merci beaucoup.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue, criminologue, experte près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je voulais qu'on aille un petit peu plus loin avec vous. Sur le mode opératoire du meurtrier présumé, ce qui frappe, c'est que, en fait, il a fumé du cannabis dans sa voiture avant d'enlever, de violer et de tuer Vanessa. Ça, c'est qu'est-ce que ça dit de son mode opératoire? C'est un mode opératoire de prédateur?
Alors, je ne mettrai pas le mot de prédateur. Mmh. Il est un peu tôt pour détecter s'il rentre dans cette catégorie oui. ou pas. C'est l'analyse, je dirais, de sa vie qui va nous permettre de voir si c'est quelque chose qui était récurrent, si dans les recherches, dans ces appareils numériques, il y avait déjà des recherches à ce niveau-là ou pas. Donc, ça fait un peu tôt pour parler de prédateur. Mmh. Ce que ça nous indique, le fait qu'il utilise le cannabis vient à faire baisser les barrières. C'est-à-dire que le passage à l'acte va être facilité. Donc, d'ici à ce qu'il soit pris par ses pulsions, par une pulsion qu'il a du mal à contrôler, le cannabis va laisser place à cette pulsion et il va prendre Vanessa comme cible.
Oui.
Vanessa, la façon dont ça a l'air de s'être déroulé laisse penser quand même que la jeune fille était en fait une victime d'opportunité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la pulsion était au pic de ce qu'il pouvait ressentir. Il l'a vue, il a dû sûrement sentir une certaine vulnérabilité chez cette jeune fille et il l'a prise.
Oui. Il avait déjà été condamné pour agression sexuelle quand il avait 15 ans. Ça dit quoi de son profil ?
Alors, il a été condamné quand il avait 15 ans.
Oui.
Aujourd'hui, il en a 31 ans.
Oui.
À l'époque des faits, il a été condamné à 15 jours de prison avec une mise à l'épreuve durant 2 ans. Il pouvait être fiché ou pas dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles
ou
violentes.
Il ne l'était pas.
Il ne l'était pas. Parce qu'il ne rentrait pas dans les conditions pour lesquelles on devait l'inscrire au fichier. Et de toute façon, s'il avait été inscrit, si pendant 10 ans il ne se passe rien, son nom pouvait être effacé. Ce que ça nous indique, c'est que déjà à 15 ans, il avait un rapport avec la sexualité qui devait déjà être déviante ou qui devait être inadaptée, sans parler automatiquement de déviance. Donc à ce moment-là, quand il a reçu cette première sanction, qu'est-ce que lui a mis en place pour comprendre éventuellement l'erreur qu'il a pu commettre? Aujourd'hui, à 31 ans, il est censé avoir acquis plus de maturité, il est censé savoir comment se comporter avec les gens, que ce soit des hommes ou avec des femmes. Et là, en l'occurrence, il est censé savoir gérer sa sexualité et avoir un comportement adapté, ce qui semble ne pas être le cas.
Mmh.
Donc les expertises vont nous permettre de mieux comprendre finalement comment lui, il s'est construit. Comment, entre ses 15 ans et ses 31 ans, il a pu gérer ses pulsions, si pulsions sexuelles, elles étaient encore présentes? Quels sont les comportements qu'il a mis en place pour ne pas commettre de nouveaux délits, de nouveaux crimes?
C'est un père de famille. Il vivait avec sa femme. Elle ne voit rien de cette face monstrueuse de son compagnon. Ça se masque à ce point?
Alors, le souci, c'est que oui. Vous avez certains criminels, et ce n'est absolument pas le premier criminel à avoir un comportement adapté, à être socialement intégré, à avoir une vie de famille, à fonder une vie de famille. Ce n'est malheureusement pas le premier. Là où nous, ça nous interpelle, c'est que pour nous, on s'attend toujours à ce que le criminel ait une enfance catastrophique, ne soit pas intégré, ne soit hors norme, parce que ça nous permettrait de comprendre que ce n'est pas monsieur tout le monde qui peut éventuellement passer à l'acte et commettre de telles horreurs. Donc oui, sa femme a pu très bien ne rien voir du tout, parce que lui est suffisamment au clair peut-être avec lui-même et son mode de fonctionnement pour arriver à masquer et arriver éventuellement à exprimer cette part d'ombre, cette part sombre de lui-même au moment où il n'y a personne.
Qu'est-ce
peut-être
qu'on...
que l'usage du cannabis peut aussi l'aider à contrôler cette part d'ombre. Sauf que là, ça a plutôt facilité le passage à l'acte.
Qu'est-ce qu'on dit à la mère, à la sœur et au frère de Vanessa? Quels sont les mots à utiliser dans ces cas-là face à l'horreur?
Alors là, ça va être compliqué et c'est pour ça qu'il y a une prise en charge qui a été mise en place par l'aide d'associations aux victimes, parce que ces personnes sont venues pour vivre, je dirais, une vie tranquille, une vie apaisée, et ils se retrouvent confrontés à l'horreur.
Donc la il famille va falloir venait d'Espagne,
oui. Oui, donc enfin, on vient pour une meilleure vie et on se retrouve confronté à une horreur. Donc il va falloir arriver, grâce aux professionnels, à mettre des mots sur ce que eux ils peuvent comprendre. En fonction de l'âge, on va adapter aussi le discours. Voilà, ça va être vraiment en fonction de leur ressenti, de ce qu'ils sont capables de manifester, où c'est qu'ils en sont. C'est tellement récent dans l'événement que peut-être qu'ils en sont encore à l'état de choc, à l'état de sidération, et qu'il va falloir les accompagner à dépasser cette étape-là pour qu'ils prennent vraiment conscience de la réalité, de la gravité des faits.
Merci beaucoup Marjorie Sueur, merci d'avoir été avec nous, psychologue et criminologue. Il est midi 28, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.